dit, bon, ben, plutôt d'accord. On a eu une commune qui nous a dit, ben, nous, c'est Chastanier, vous nous avez oublié, on veut inscrire le Chastanier. Si Aléras se dit, vous nous avez oublié, on a des bonnes raisons à la fois de justifier et puis une motivation, Aléras sera rajouté, donc en tant que commune, mais sur un des villages qui paraît le plus rentré dans ces critères-là, voilà.
Il n'y a pas de... Est-ce que je rappelle, il y a eu une demande de Aléras de pas de village de Martin à l'époque?
Alors au tout début, non.
Puis le pays d'arrondissement, elle n'avait pas identifié, non, exactement. Par le travail qu'ils avaient fait depuis, c'est pas grave.
Non.
C'est-à-dire, il n'y a pas de drame. Non.
Il n'y a aucun drame et il n'y a rien de grave. Il y a l'histoire qui suit son cours, si vous regardez Alain, puis après je passerai la parole à Jacques-Yves, parce que c'est vraiment qu'il a demandé. Et ben, ou à Philippe, je ne sais pas, tirez au sort entre vous deux, si vous préférez. Par rapport au pays d'art et d'histoire, là aussi c'est une question de timing, pour employer un dernier mot. La commune d'Aléras n'est pas encore intégrée dans le périmètre des communes pays d'art et d'histoire. D'où le débat au début, une liste qui ne comprenait pas forcément Aléras, puisque le critère c'était d'être dans le pays d'art et d'histoire. Or, nous n'étions pas à l'époque. Il a été récemment délibéré par l'ancienne équipe l'acceptation de venir, de l'être. Donc si j'ai bien compris ce que nous a expliqué l'animatrice de pays d'art et d'histoire, ça suit son cours, comme on dit, en langage administratif. Je pense qu'en ce moment, les manques de crédit n'accélèrent pas les décisions. Quoi qu'il en soit, ceux qui l'ont été au départ, c'est pas parce qu'ils sont plus jolis ou que le maire est plus gentil ou moins barbu, ou etc. C'est simplement que il fallait s'appuyer sur des critères objectifs qui avaient déjà été travaillés par le SNAP et qui étaient ceux du pays d'art et d'histoire. Voilà. Ce qui fait que ça reprend presque ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand bien même on ne serait pas aujourd'hui, on n'aurait pas une partie de la commune reconnue à l'histoire, et si on devenait à l'histoire, il suffirait d'aller frapper à la porte et de dire pourquoi on est là. Voilà. Mais on ne va pas attendre ça et on ne va pas attendre tout ça. Voilà. Alors.
Oui, moi j'ai fait la synthèse un peu de ce qui s'est dit jusqu'à présent. Ce que je pense, c'est que tout de suite, on peut mettre à la place de 29, on peut mettre 30, puisqu'il y a une volonté de la commune d'être dans les villages, de proposer un village remarquable sur la commune d'Aléras, et Dieu sait si notre patrimoine est assez riche pour en proposer un, au moins. Donc, il n'y a qu'à passer à 30, le prix, et puis on est remarquable. Parce qu'il y a les critères, je dis. Ça a été assez rapide.
Ouais.
Votre énumération a été assez rapide et on n'a pas eu le temps. Bon, j'ai bien compris qu'il faut, dans le patrimoine, il faut déjà un site classé.
Un monument historique,
on l'a sur vous. Donc, après les autres critères, après il y a la volonté de la commune, c'est un autre critère. Et puis, je ne vois pas pourquoi on ne passe pas tout de suite à 30.
Mais c'est fait, hein. Ben moi, j'ai rajouté sur la liste de ma version de charte, il faut remonter.
Tout à fait,
La seule chose, Jacques, c'est qu'il appartient à la commune d'écrire, de formaliser la
commune. Non, mais j'ai bien compris.
Il faut qu'on s'engage.
Non, mais il faut rentrer dans les critères.
Voilà.
Hein, donc, il faut déjà un monument qui soit placé.
On sait bien qu'à l'Aléras, ça sera vite fait.
Alors, il y a une autre question que je voudrais poser au sujet des parcs régionaux, naturels. Hein. C'est que j'ai vu le mot compétition. Et ça me choque un petit peu, parce que il n'y a peut-être pas besoin d'être en compétition.
Non,
on a un patrimoine, on a... Donc, compétition, pourquoi?
Oui, alors, on dit ça parce que si vous voulez à la fédération, moi je suis au bureau de la fédération, et la fédération nationale des parcs,
oui,
etc. Donc, il ne va pas y en avoir beaucoup plus d'épargne. Oui, on arrive déjà à 5 ans. À mon avis, on sera à 60 sur le territoire. C'est déjà...
Il y en a déjà 20 qui postulent.
Non, mais c'est...
Au-delà des 40...
Non, mais c'est déjà 13% du territoire français. Il y a 3,5 millions de personnes qui vivent dessus. En Auvergne, quand on aura fini celui-ci, l'Aubrac, et avec le Boulardèche qu'on a là, et les deux grands parcs qu'on a déjà, Livradois-Forez et Volcan, c'est plus grand France, ça, Volcan. On sera à presque 40% du territoire de l'Auvergne qui sera couvert.
Et l'Auvergne, c'est un joli pays.
Alors, c'est un très joli pays, on ne pourrait pas dire le contraire. Mais ça mérite bien ça, vous ne pourrez pas dire le contraire. Mais au bout d'un moment, ça limite, parce qu'après, le label va se déprécier. Tout le monde ne peut pas être, voilà, parc. Et au bout d'un moment, la fédération dira, attention, on va monter la barre tellement haut qu'il n'y aura plus la place pour tout le monde. Et du coup, on exagère encore par la compétition. En fait, il y a quand même aussi cet esprit-là qui dit il ne faut pas trop
autre chose, un village remarquable va bénéficier d'aide. Un village qui veut rentrer dans les remarquables va être obligé de faire des efforts. Pour faire ces efforts, il y a besoin de... C'est pas difficile, hein, c'est la finance qui commande tout. À partir de là, pour avoir de la finance, si on est déjà remarquable, c'est beaucoup plus simple que si on n'est pas remarquable et qu'on veut rentrer dans la
remarquable. Pas sûr,
moi j'ai déjà entendu, il faut rentrer dans le système, il faut faire preuve de volonté déjà, à ce moment-là.
C'est quand même beau du... On ne sait pas parler d'affiche quand même. C'est quand même très intéressant. Bon, ça marche.
Bon, j'ai terminé mon interview.
On est à Philippe.
J'allais en venir là. On a eu une discussion avec Marco et les amis là, au bar, pour dire comme il est. Comme j'ai pu dire, quand on passe partie d'un pas, les lois européennes, c'est elles qui dirigent tout. Au niveau de l'agriculture, le parc ne fera pas plus. Il peut aider à améliorer des choses, mais il n'ira pas plus haut que les lois européennes. Au niveau des aides, quand on passe partie d'un parc ou pas, si on veut faire des aménagements ou pas, on va partir déjà à notre commune, nous, pour aller faire saint romain. On va aller voir la Comcom, et l'Europe derrière, pour voir si on ne peut pas avoir plus d'aide, la région et le département, bien sûr. On aura une aide, comme vous disiez peut-être, de management ou de savoir-faire pour votre poids derrière, mais financièrement, on n'avancerait pas plus ou moins qu'on passe partout d'un pas ou pas. Comme j'ai pu le dire autrefois avec Marco et la Epolo qui avait, c'est pas parce qu'on n'est pas dans le lot qu'on n'avançait pas plus ou moins. On aurait un peu plus d'aide, mais quand je dis d'aide, c'était pas financier, c'est des gens qui nous conseilleraient mieux, c'est tout.
Alors, je réponds. Oui et non. Vous avez raison, on ne fait pas plus de lois et on n'a pas, on ne lève pas les impôts. Les parcs ne lèvent pas l'impôt, donc ils ne redistribuent pas sur l'ensemble directeur. C'est clair. Ensuite, les parcs, ils amènent la plus-value de l'équipe. Voilà. C'est là qu'il faut voir la différence. Alors, l'équipe, elle travaille sur aussi les financements. Aujourd'hui, vous savez, les fonds fédéraux, les dons, etc., il faut les chercher. C'est pas... On les obtient pas comme ça. Les équipes, ils sachent qu'on peut négocier. Les faire, etc., mais c'est compliqué. Et tant mieux si on met justement une équipe professionnelle là-dessus sur un territoire comme ça. On m'a dit ça marche. Et je vais vous illustrer après la plus-value du parc dans l'agriculture, parce qu'on a fait au parc des volcans. Au parc des volcans, on a vu les agriculteurs arriver nous disant bon, on a des problèmes, on n'arrive pas, enfin, on ne valorise pas bien les avants des mecs. C'est le truc. Aujourd'hui, on a toujours dans le journal une histoire de payer les charbons, les heures chères, on a reçu les 2 heures charbons, il n'y a pas longtemps à la région, on perd 200 euros par carcasse. Hein. C'est pas rien, quoi. C'est la moitié du coût de la si on compte. Donc les gars du parc des Rocheurs, les agriculteurs du parc des Rocheurs, vous avez dit, on a ce problème-là, on va en très mal, on va en carcasse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? L'équipe du parc s'est remise là-dessus, le syndicat nous a réparé, on a libéré du temps, des fonds, etc. pour faire travailler ça. Ils ont créé l'association de la Cajou des Volcans. Ils ont créé ça simplement dans le but de transformer sur place les avances de carcasse. Ben, ils ont fait plus de plus-value, au final, que ce qu'ils vendaient en carcasse brute. Ça a regroupé, je ne sais plus, ils en sont aujourd'hui à 17 adhérents. Il y a 17 agriculteurs qui vendent leur avant carcasse comme ça. Et bien très bien, parce qu'ils la vendent 25% de plus que ce qu'ils vendent les arrières aujourd'hui. Ils ont gagné presque 50% de chiffre d'affaires. Tant mieux. Mais le parc n'a pas payé ni les mètres, ni machin. Il a pris en charge la formation des agriculteurs, cherché comment on pouvait faire un labo de transformation de viande, trouver les locaux, trouver les moyens, former les gars. Il a pensé au système de diffusion, au système de... Voilà. Et c'est à ça que ça sert. Alors, moi, je ne vais pas aller où, et il n'y a pas plus que l'argent qui tombe des collectivités et des autres. On n'en créera pas plus. Hein. Par contre, on pourra peut-être créer, vous pourrez peut-être créer, en tout cas, du projet nouveau qui demandera de nouveaux financements, qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on ira chercher ailleurs, et qu'on ira chercher en plus de ce qu'il y a aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut voir.
On va partir dans le parc, on fait partir d'un groupe.
Dans les réseau,
dans le réseau, donc un nombre de gens, donc on a une force supplémentaire.
Et il faut l'utiliser. C'est à nous, en plus, d'aller taper à la porte en disant, on n'est pas content, ça suffit, on va être là aussi, parce que participer par vos impôts à la vie du parc, et là, vous allez pouvoir utiliser l'équipe technique du parc à fond, et les aider. C'est comme ça que ça.
Et j'ajoute que. Là-dessus, pour compléter, là où on a été très attentif dans la construction du projet, c'est qu'il y a le réseau parc, mais il y a aussi le réseau de tous les partenaires. Je pense aux communautés de communes qui font déjà des choses, aux chambres d'agriculture, aux chambres de commerce et d'industrie, etc., aux partenaires du monde du tourisme. Et l'idée, c'est pas que le parc arrive comme s'il ne se faisait rien, etc., mais c'est de fédérer ses partenaires sur des projets collectifs comme ça, en disant, mais chacun, on a notre pierre à apporter à l'édifice, on a notre petit coup de main à donner, et c'est collectivement qu'on y arrivera. Hein? Et c'est pour ça que dans beaucoup de dispositions, vous verrez beaucoup partenaires, rôle des chambres d'agriculture, rôle des communautés de communes, rôle des communes, etc. Parce que dans ce que vous dites, il faut que le parc, ça soit un fédérateur. Pas sur tous les actes de la vie quotidienne, hein, il ne va pas être derrière tout le monde, etc., mais sur ces projets-là qui sont inscrits dans la charte, c'est cette dynamique commune où chacun a sa place, il faut qu'on arrive à faire remonter du projet.
Mais c'est aussi l'exemple du travail qui se fait aujourd'hui sur les parcs et leurs collectivités territoriales avec la restauration collective. C'est-à-dire que quand le parc va voir chaque collectivité en lui disant comment vous organisez votre alimentation collective, des écoles, des écoles primaires, je ne sais pas quoi, des EHPAD, je ne sais pas, et le parc leur dit, mais nous, avec les agriculteurs, avec les communes, avec les départements, on a l'ambition de faire du circuit court, enfin de livrer du produit, et bien ça marche, ça finit par arriver. Ça finit par arriver, ça peut marcher. Ça ne marche pas tous les coups, ce n'est pas le miracle de la porte, mais ça peut marcher. Et c'est la bonne façon de servir l'outil.
Par exemple, il y a quelques semaines, on a reçu, alors même qu'on n'est que association de préfiguration, on n'est pas parc naturel régional, on a reçu un document d'appel à projet du ministère en charge de l'environnement, de l'écologie, du développement durable, qui était spécial pour les parcs naturels régionaux, qui disait bah, dans le réseau des parcs, lesquels veulent aller plus loin dans ce qu'on appelle les territoires à énergie positive, sur le développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie. Et bien, ça, c'est quelque chose qui... c'est un moyen, c'est une ambition, on l'a écrit dans la charte du parc, qu'on voulait aller dans cette direction-là, ben, si on était parc aujourd'hui, on pourrait se rassembler dans le syndicat mixte, c'est-à-dire, bon, ben allez, est-ce qu'on répond à cet appel à projet? Quelles sont les actions qu'on met en place? quelles sont les communes qui sont prêtes à partir sur leurs bâtiments publics, quels sont les projets industriels ou pas, la méthanisation, les machins, les trucs. Voilà, c'est l'exemple. Alors après, on dirait peut-être non, on répond pas, c'est trop tôt, c'est bon, trop compliqué, on fait autre chose. Mais voilà, c'est ces opportunités-là qui peuvent être saisies peut-être plus facilement, avec plus d'efficacité quand on est PNR, avec, comme vous dites, le travail en grand réseau.
Oui, mais vous ne pouvez pas de parc photovoltaïque.
Oui, alors
non.
Si, en toiture.
Vous nous parliez de photovoltaïque tout à l'heure, il y a 10 hectares face à un photovoltaïque.
Et oui. Et dans la charte du parc, on a écrit, donc il faut que toutes les communes soient d'accord, qu'il ne faudrait pas, dans ces 12 ans, qu'on fasse des grands parcs photovoltaïques au sol, comme on en a vu à certains endroits du territoire, y compris qui existent aujourd'hui de secteurs.
Alors vous privilégiez les éoliennes ou les barrages?
Alors,
parce qu'il faut quand même produire les centrales atomiques.
Oui, on privilégie. Non, on privilégie le solaire. Sur toiture. Mais, vous en avez un exemple ici. Mais, bravo. Bon. Alors c'est pas 17 hectares de toiture là. Mais si vous avez plein de petits projets de village, ou sur des bâtiments agricoles, etc., et quand on fait la somme. Et ben on arrivera à des hectares.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais vous savez actuellement le rapport du photovoltaïque. Hein,
voilà, il n'est pas trop fort
de quelques mètres carrés.
Voilà. Alors, et puis, si on regarde le mix, voilà, j'ai un spécialiste à mes côtés, donc je fais particulièrement attention à ce que je dis, mais effectivement, la production électrique d'un photovoltaïque, elle n'est pas comparable, elle est rien par rapport à l'éolien. Par rapport à l'hydroélectricité, c'est vrai, par rapport à une centrale biomasse, etc. Bon. Mais si vous lisez, alors là c'est la disposition 413, hein, si vous êtes passionné par ces questions, allez voir ce qu'il y a marqué là-dessus. On dit il n'y a pas une énergie qu'on va plus favoriser que les autres, il y a un bouquet énergétique. C'est vrai qu'on est particulièrement légitime quand même sur l'éolien, on en a déjà beaucoup, mais il y a la possibilité d'en faire plus. Mais là encore, pas n'importe où, pas n'importe comment.
C'est sûr.
Oui, mais on dit des choses hein, dans la charte du parc. Hein. Et donc, il y a un secteur favorable sur tout le PNR, c'est-à-dire sur l'éolien, c'est de dire qu'on ne va pas avoir dans tous les coins du parc des nouveaux parcs éoliens. Hein, on en a déjà deux. Donc, la priorité, c'est regardons d'abord si on peut compléter les parcs existants pour ne pas en créer un. Hein. Oui. Pouvoir les agrandir dans des proportions qui sont compatibles avec notre valeur paysagère, etc. Il y a, c'est vrai, une zone potentielle pour de nouveaux projets qui correspondent à l'entité paysagère du plateau volcanique du Devesse. Donc là, la communauté de communes est concernée. En revanche, côté Margeride, non. Côté Mercoire, non. Côté Paulaguet, non. Et il y a une ambition en plus. De, si on doit faire du développement éolien supplémentaire, on le fasse en solidarité, c'est-à-dire, et en investissement public. C'est-à-dire qu'on ne soit pas sur un investisseur privé auquel on dit bien sûr venez, etc., qui investit à lui tout seul et qui tire le maximum de bénéfices, et nous n'ayant plus que la fiscalité, bon, hein, c'est, mais plutôt de dire, si quelqu'un doit venir, oui. Et en plus, la fiscalité. Mais s'il doit y avoir un projet éolien sur ce territoire, la charte du parc, elle dit, il faut que ça soit un partenariat avec de l'investissement local. C'est-à-dire que les collectivités du territoire, voire les entreprises, voire même les habitants, doivent pouvoir être invités à participer à l'investissement pour qu'il y ait un maximum de retombées qui viennent sur le territoire. C'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Hein. Pour l'instant, dans notre coin, ça n'existe pas. Mais c'est le choix que les communautés de communes ont fait. On a fait tout un travail là-dessus.
Les investisseurs sont en
alors, les investisseurs, voilà.
Si il y a une acceptation sociale, ils n'ont pas des impôts.
Donc là, on a l'ambition qui n'est pas facile à réaliser. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que tout le monde va jouer le jeu? Hein, c'est pas garanti. Mais c'est inscrit dans la charte du parc. Et ça nous donne une ligne de conduite collective vis-à-vis des industriels, mais avec une faiblesse qu'on a, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, les communes, communautés de communes, on a moins de pouvoir sur l'éolien qu'on l'avait fut un temps. Hein,
vous connaissez ça. Voilà. Donc, on aura le pouvoir de la charte du parc, qui, si on joue tous le jeu, peut nous donner une ligne de conduite et du schéma régional éolien, puisque la charte traduit aussi le schéma, les schémas régionaux éoliens, pardon, je vais mettre, parce que, voilà, on est cohérent avec les grandes. Voilà. Sur l'hydroélectricité, c'est vrai que si on est très très clair, la charte ne préconise pas un développement tous azimuts de l'hydroélectricité. Bon, en plus ici on est sur un
site renouvelable.
Voilà. Alors que c'est une super énergie renouvelable, hein, l'hydroélectricité. Voilà. Mais on a d'autres enjeux qui sont le maintien des rivières, de la continuité, on a des espèces migratrices. Bon, ici, vous connaissez le sujet avec Poutès, hein, tout le débat qu'il y a eu, qui se conclut par. On garde une certaine partie du potentiel hydroélectrique, en même temps on efface d'une certaine manière l'ouvrage, donc voilà. La charte, elle ne préconise pas qu'on aille reconstruire Poutesse, hein, ni qu'on aille faire des micro-centrales partout dans le territoire. On peut encore en faire sur certaines rivières. Il y en a, vous savez, qui doivent s'équiper, etc. Il y a tout un contexte réglementaire. La charte ne va pas ajouter de la réglementation. Si on doit, par exemple, dans le cadre du parc, aider les communes, les propriétaires de seuils en rivière à obtenir des financements en disant aux grands financeurs, agences de l'eau, régions, etc. Écoutez, vous êtes dans un territoire PNR qui joue ce jeu-là, mais aider les propriétaires à aménager leurs seuils ou à les araser pour certains, etc., bah, montrer que voilà, bah, le parc il aura ce rôle-là à jouer. Est-ce qu'il obtiendra tous les financements? On ne peut pas le garantir. Si on est très honnête, on va vous dire on n'a pas. Voilà, mais ce qui est clair aussi, c'est que ce qui est inscrit dans la charte, il faudra qu'on essaye de le jouer et qu'on aille voir ses partenaires en disant, bon, ben, là, il y a des opérations qui sont prêtes à se monter, et nous, à les financer.
Alors, il y a un problème pour, enfin, surtout pour Alliance, pour le moment. Donc, quand tout ça s'est fait passer, le problème, c'est Vossac.
Oui.
Vossac, il est en plein dans le PNR.
Oui.
Et je sais si sur le plan économique, politique et tout ce que vous voulez, nous, on a vécu le barrage comme une catastrophe.
Ouais.
On a vécu une catastrophe écologique.
Sur la vie,
ouais.
Sur la qualité de la vie.
Vous parliez de l'ombre tout à l'heure.
Ouais.
Qu'on a connu à profusion dans l'Allier, la truite qu'on a connue à profusion dans l'Allier, depuis nos sacs, eh bien, on a vu changer les choses.
Hein. Et vous considérez que c'est nos sacs?
Ben bien sûr, et sur le plan économique aussi,
ouais.
Hein, il n'est plus question de développer des activités baignables et compagnie sur l'Allier,
ouais.
Même en pleine saison, parce que quand nos sacs lâchent, eh bien on sort l'eau et au plus vite possible. Alors actuellement, avec le barrage de Poutès, il y a une certaine inertie dans le système parce que les communes en aval, elles reçoivent encore d'eau à peu près tempérée. Dans quelques années, quand il y aura 300 mètres de retenue, l'inertie thermique, elle n'existera plus. Donc peut-être qu'on entendra les communes en aval qui diront.
Vous savez qui gère nos sacs? C'est le Péloir,
c'est ça le problème.
Dont le siège est à Orléans. Et effectivement, bon là encore, nous, on plaide la faute du parc, mais une commune isolée qui va à Orléans pour dire.
Mais bien sûr, parce que moi j'ai fait
partie. En revanche,
du sage pendant quelques années. Hein, on l'a dit, on l'a répété, il y a les centrales atomiques.
Ouais.
Hein, il faut qu'elles sortent de l'eau à 19 degrés et. Il ne faut pas qu'elle soit 19,5. Bon.
Oui, voilà, c'est ces enjeux-là qui sont. Mais ce qu'on espère bien.
Mais il faut savoir sans eux. Si on veut de l'électricité, quand
on est dans la pièce. Mais en tout cas, je termine là-dessus. On a eu un dialogue avec Claude Péloir dans le cadre de la préfiguration.
C'est ça?
Et quand même. L'écoute ou l'attention de Le Péloir n'est pas la même quand on a des communes qui viennent isolément, hein, Langogne, etc., ou d'autres, que si on a un PNR dans lequel vous avez 88 communes,
c'est important, mais aussi vous avez deux départements membres de l'Eure-et-Loir et deux régions, hein, dont une région très importante pour l'Eure-et-Loir quand même, qui est ouverte. Et là, je dirais, les messages qu'on a à faire passer, ils auront peut-être un peu plus de chances,
oui, bien sûr,
d'être écoutés. Voilà. Alors après.
Non mais bon, on peut travailler activement à rentrer dans le comité de gestion pour ça.
Voilà.
Oui, oui, mais pour moi, ça serait déjà une première marche si le futur part pouvait rentrer dans le comité de gestion. Parce qu'à ce moment-là, on a des choses à faire valoir pour nos communes. Et de dire, ben voilà, la continuité, etc., le tourisme, on peut rappeler tout ça. Alors qu'aujourd'hui, cette voie-là, elle n'entend pas.
Ah non, non, pas.
Donc il y a une première marche, ça
c'est ça.
Après, on luttera effectivement contre la sécurité nucléaire. Là, c'est un peu différent. Mais je pense qu'on doit pouvoir trouver l'aménagement. Bon, ce qui s'est fait sur Coutesse, moi, ça me rend plutôt optimiste. Quoi. Parce que.
Vous savez, quand il y a 50 saumons au pied du barrage, il n'en montera pas jamais ça. Parce que.
Je ne sais pas, il y a des montants, je ne sais pas. Mais peut-être.
Ah, oui, bon, peut-être.
Mais voilà, il faut jouer aussi sur.
Parce que.
Et qu'à un moment, les gens viendront peut-être.
Malheureusement, quand il y a des saumons au pied du barrage, l'ascenseur, il marche son travail. Mais quand il y en a 20, il ne peut pas monter 50, et quand il y en a 50, il ne peut pas monter 20. C'est mathématique.
C'est compliqué. Il faut que bon.
Alors, je pose une question un peu plus. Une question un peu plus, on va dire, mon âge. Voilà, je suis président de la CCA d'Aléras, des chasseurs, donc. J'ai 90 adhérents, à peu près, mon association. Et je voudrais savoir le parc, quel regard il aura au niveau de la chasse.
Je vous répondrai pas en tant que chasseur.
Ah bon, hein.
Le parc n'a pas de. Alors là encore, hein, on est sur les questions réglementaires. Le parc n'a pas d'incidence sur l'exercice de la chasse.
Il n'y aura pas.
Aucune.
Non. L'exercice de la chasse, il est réglementé, etc. Il y a les ACCA, il y a la loi Verdeille, tout ça, etc. Donc le parc, il n'a pas pas d'incidence là-dessus. On a rencontré les chasseurs et on s'est demandé ensemble si, les deux fédérations de chasse, s'il y avait même des projets que les chasseurs aimeraient voir figurer dans la charte du parc. En se disant que les chasseurs sont aussi des gestionnaires, et que ça peut être intéressant, il y a des parcs qui l'ont fait sur des sujets, d'avoir un travail spécifique sur le biotope d'un gibier. Je pense par exemple à la Perdrix Rouge dans le Val d'Allier plus à l'aval, hein, dans la séquence la Vallée Riante, là où autrefois il y avait énormément de Perdrix Rouge, etc. À l'Eras, on avait aussi des Perdrix Rouges, mais qui étaient liés beaucoup à un biotope plus diversifié que ce qu'on a aujourd'hui, etc. Bon. On n'a pas pour l'instant trouvé de projet. Les fédés ne nous ont pas dit, je dirais, il y a des sujets qu'on aimerait travailler avec vous, mais sans qu'il y ait d'affrontement ou de. Voilà, hein, pour être très, le plus clair possible, hein, Lionel. C'est quoi, hein.
Une des premières visites qu'on a fait, je me rappelle, à Lozère, au tout début du projet, c'est la Fédération de chasse de Lozère, on a rencontré le président régional, moi je ne connaissais pas, je connaissais le président Vernet. Dans le mandat précédent, moi j'avais travaillé pas mal sur l'environnement, sur les plans de chasse, on avait travaillé sur l'idée que voilà, la chasse pouvait avoir un intérêt, et avait un intérêt vis-à-vis de certaines ports, certains voilà, etc. Et puis régulation, moi, je ne cache pas que. Je ne suis pas spécialement en chasse, mais il y a des choses qui sont régulées. Voilà, ça a un sens. De réguler les choses, faire des cultures de chasse, ça peut avoir un sens. Aménager, ça peut avoir du sens, tout ça. Mais il faut en parler de manière un peu passionnante, c'est bien. Et on n'a aucun problème avec ça. Parce que, voilà, la loi c'est la loi, la réglementation elle s'applique. Quand elle s'applique, mais la loi, il n'y a aucun problème. Et nous, on ne fait pas. Et les parcs ne font pas de réglementation, je crois. Voilà.
Comparant au parc, monsieur, nous.
Ah oui, mais oui, complètement. Complètement, on ne peut pas.
Oui, la grande différence, c'est le parc national. D'une part, il n'y a pas d'habitat. On ne construit pas. Et puis, on ne chasse pas, on ne pêche pas, on ne paye pas de fleurs. C'est complètement autre chose.
Si on a, on a marqué travailler avec les chasseurs, agriculteurs et forestiers pour limiter les dégâts de gibier sur les cultures et sur les plantations forestières.
Mais ça, c'est là. Qu'est-ce que vous entendez par là
hein?
Qu'est-ce que vous entendez par là?
C'est le forestier.
Parce que là, c'est l'ancien président, je suis pas remplaçant, on va dire. Je pense qu'on la CCR va investir, on doit être pas loin de tour de 6 ou 7 000 euros.
Ouais.
Protection en clôture pour protéger.
Protection
On n'y arrive pas.
Oui, voilà.
On vous entend, vous parlez d'aider au niveau ovin, c'est-à-dire des broussaillages, Le problème, c'est si vous avez toutes des moutons, on va dire par les côtes, et comme ça va bien nettoyer, c'est sûr. Mais nous, on a un territoire où il y a beaucoup de cervidés, de guillemets, c'est d'être là, c'est ce qu'on va faire.
On va une clôture à mouton, ça
change. Si vous nettoyez, elles ont des abris,
ils s'accommodent très bien les espaces nettoyés. On serre, il y a une expansion sur le territoire. On est d'accord. Il est plutôt en expansion. Je vous garantis que. On n'en est pas avec la forêt, elle est en expansion sur le territoire.
Oui.
Avant qu'on inverse la tendance et que les cours de ça devienne des espaces
de loose. Je ne parle pas de ça, je parle de ça.
Sur les questions des forestiers qui râlent en disant que nos plantations sont usées. C'est de dire, essayons de faire en sorte de trouver des systèmes peut-être assez gérables pour qu'on n'ait pas d'opposition d'un côté entre les forestiers et les chasseurs sur les nouvelles plantations, d'avoir des systèmes pas trop onéreux de protection des plants. J'ai discuté avec un ancien agent de l'ONF, par exemple, sur Mercoeur, qui m'a dit, mais il y a des solutions qui sont à peu près gérables, etc. Bon, voilà, c'est de trouver des solutions, c'est de se parler, c'est pas de dire d'y aller. Voilà.
Sur la biologie,
ils ont fait des trucs. Bon, voilà, des solutions qui sont à peu près adaptées à notre territoire et qui permettent d'éviter ces choses.
Oui, moi je vais faire des jeux par rapport à la minéralie, tout à l'heure. La qualité d'eau, c'est vrai que c'est comme ça qu'on peut voir avec les gens qui m'ont dit qu'ils ouvrent un peu l'eau de la minéralie. Étant donné qu'il y a quelques lorsqu'on était gamin, le Dupont d'Aléras, on voyait les verrons au fort, quoi, 50 de fort. Aujourd'hui, on ne les voit plus longtemps. Hein. Par contre, ce qu'on remarque depuis, surtout cette année, il y a une recrudescence qui a de truites. Il y a une densité de truites qui est bien plus importante que les années précédentes. On a une densité de truites qui font, entre 15 et 20 cm, on a pris énormément cette année. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il y a certainement eu des frayères qui ont été plus importantes, on ne sait pas. Enfin, l'eau est toujours la même. De l'ombre, on en a aussi. Le verron est rendu énormément. Et qui dit dans une rivière où il y a des verrons, où il y a de l'ombre, c'est clos, et le verron, c'est normalement. Hein. L'eau est saine. Donc, tout ça, qu'est-ce qui ne lâche pas la même eau? C'est-à-dire qu'il y a quand même de l'eau du fond, de la haut. Je ne sais pas. Il y a déjà la fraîcheur d'eau. Si on va à la chambre, l'eau est très très froide. Si on lâche en haut, je pense qu'elle est un peu plus chaude. Est-ce que tout ça fait jouer? Qu'est-ce qu'il a fait là-haut? Je ne sais pas. Est-ce qu'il lâche en haut? Est-ce qu'il lâche en bas? Elle a peut-être
Il y a trois grades de lâcher.
Il y a trois niveaux.
Trois niveaux de lâcher.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'un plateau? En fait, une chose de sûre, c'est que cette année, on a une reconnaissance de truites et de verrons et de l'ombre. Donc, une chose que j'ai vu cette année, que je n'ai pas vu plus longtemps, j'ai vu que c'était une censure, en fait, bon. Une loche. La loche, on faisait quand on avait des gamins à la fourchette, hein. Des loches. Alors j'ai voulu des loches, et c'est un poisson qui est extrêmement fragile.
Ça, c'est bon aussi.
Donc je me dis, l'eau est en train de revenir, belle. Voilà. J'aurais une deuxième question à poser. Par rapport à nos chemins. Nos chemins, ils sont communaux, d'autres sont sectionaux, donc d'autres ils sont, voilà. Il y a un problème avec les chemins aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est systématiquement des engins mécaniques qui les détruisent, mais ils participent, puisque tout le monde sait que leur fond gratte et des orages derrière.
ça ruisselle, et on ravine et on détruit les chemins. Je ne suis pas contre pour qu'il y ait des motos, pour qu'il y ait quoi, pour qu'il y ait 4x4, il y a aussi des marcheurs pour les chemins. Je ne suis pas contre pour qu'on les interdise. Oui, il faut être réglementé, alors je sais bien que réglementé, ce n'est pas le gendarme, mais il y a des choses à faire. Moi, je prends l'exemple d'un chemin qu'on a, que tout le monde connaît, c'est le chemin de Barbe qui va à Salis. C'est notre seule issue, puisqu'on a, on est au fond de la vallée. S'il y a un écho et pour le moment, on sera de Barbe, c'est notre seule issue pour sortir du village. Pour quelques jours, on attend que les travaux se fassent, et ce chemin, aujourd'hui, est complètement détérioré. La commune l'a refait au moins deux fois. Je crois que Michel, quand il était bien, l'avait fait déjà une fois. Et ça a été arrangé de nouveau, et là, de nouveau, vous ne passez pas d'une voiture, ce n'est pas possible. Donc voilà, les chemins, il y a des choses à faire aussi. Alors, en sachant qu'il y a des gens aussi qui marchent sur ces chemins. En sachant qu'aussi ce chemin, il est cassé aujourd'hui, je crois, GR. Il y a de plus en plus de monde, et on se trouve avec des motos et des quads, qui viennent faire des courses de côte, pas bien ici, hein. Des gens qui viennent de très très loin. J'en ai vu l'autre jour des 84 et des 13, qui montaient comme des malades avec des groupes 4x4 de 250 chevaux pour miser. Et ça, c'est pas de lâche-pas que lâche-pas.
Alors là-dessus, c'est un des sujets qu'on a aussi traité dans la charte du parc. Donc c'est la disposition 326. Excusez-moi.
Monsieur Roupan vient de m'avouer que le Lionel était était le seul à connaître par cœur toutes les dispositions.
Ah bah oui, mais c'est mon numéro. Deux réponses. Sur votre site, quand on parlait des sites emblématiques, vous savez, la vallée de l'Allier, etc., les secteurs que vous citez, ben, l'occasion sur les sites emblématiques d'avoir une stratégie, ce qu'on appelle un document d'orientation, c'est justement de faire le point sur tous ces sujets-là et puis de se dire ben, quelle est la stratégie, y compris sur les chemins, sur l'accès à l'Allier, sur l'amélioration, voilà. Bon. Mais là, c'est pour vraiment être sur un Aleyras. Et puis, vous avez la disposition 326 qui est propre aux activités de pleine nature. Parce qu'il est demandé aux parcs naturels régionaux d'avoir une ambition là-dessus. Non pas pour interdire les activités de pleine nature sur un territoire, mais pour en faire en sorte que, comme vous le dites, elles s'exercent de manière harmonieuse, qu'elles ne remettent pas en cause la qualité des sites, etc. Donc là, on a fait tout un travail avec les professionnels d'activité. On a la chance dans ce territoire qui se sont regroupés les professionnels en groupement, mais aussi avec les clubs moto, les clubs quad, etc. On a fait un constat commun, on est arrivé à écrire des choses. Je ne vous cache pas que les débats, ils n'ont pas toujours été simples, hein, parce que... Parce qu'ils nous disaient, mais vous n'allez pas nous empêcher d'aller sur les chemins, etc. Et nous, on disait, mais non, on ne va pas empêcher. D'abord, le parc, il ne réglemente pas. Toujours la même chose. Qui est-ce qui a la possibilité de réglementer? C'est les communes. Hein, c'est le maire. C'est ça, hein. C'est les communes. En revanche, il y a une ambition qui est écrite dans la charte du parc qui dit d'ailleurs que souvent les problèmes qu'on rencontre, ils viennent pas forcément des clubs locaux qui sont plutôt responsables, mais de groupes extérieurs au territoire, voilà, qui viennent s'éclater, et c'est ce que vous venez de témoigner. Donc le parc, on a créé dans le projet de parc. L'idée, c'est de rassembler tous ces acteurs-là au sein d'un atelier permanent, un réseau qu'on appelait l'atelier activité de pleine nature, qui travaille sur tous ces sujets de l'exercice des activités de pleine nature dans le territoire. Et qu'on ait une veille, qu'on soit aux côtés des communes, pour vous aider à gérer des problèmes comme celui que vous avez. Et que vous ne soyez pas seul face à des clubs extérieurs au territoire, qu'il y ait un réseau, que ça soit le motoclub du coin, etc., que le parc, il prévienne les extérieurs du territoire en disant, attendez, dans ce territoire, vous ne venez pas n'importe comment, hein, il faut respecter des règles, il faut respecter, prenez contact avec les clubs locaux qui sauront vous dire là où vous pouvez aller sans problème, là où la commune vous dit non, etc., pour qu'on ait, voilà, ces pratiques un peu sauvages ou n'importe comment, qu'on ait une manière de les gérer, de les anticiper et d'éviter les dégradations.
Mais quand vous voyez un cas d'attente qui vient 200 quads, qui viennent d'année de je ne sais pas où, donc pas de la région 20, 200 quads, et ils ont fait des courses de côte sur ces chemins-là. Alors pourquoi Casablanca aussi accepte le type de tourisme?
Alors voilà, alors, ça me permet de revenir. Quand je disais Pont d'Aléras, vous avez des acteurs du tourisme qui peuvent bénéficier de la marque PAC, du label PNR. Dans le travail qu'on aura à faire avec Cap Vacances, si Cap Vacances est intéressé par avoir le label PNR, c'est dire à Cap Vacances, ok, le label PNR, ça suppose peut-être que vous soyez assez bon dans votre consommation d'eau, dans vos énergies renouvelables sur le site, que dans les produits que vous proposez, ils soient respectueux des sites environnants. Et si vous faites ça, le parc, ça ne sera pas un fric, il ne sera pas derrière à vous mettre des PV, il ne réglemente pas. En revanche, il peut vous donner le label de pratique de votre activité touristique de super qualité du point de vue des acteurs locaux, de l'environnement, de la nature et des sites. Et ça, commercialement, ça a une valeur. Et dans ce cas-là, c'est pas à n'importe quel prix, ça veut dire effectivement que vous ne faites pas n'importe quoi.
Le syndicaliste peut dire à ce moment-là, vous ne voulez pas, vous ne faites pas d'autre, mais non, vous retirez de nos références. Ah, et quand on sait l'importance de l'action touristique que peut avoir le parc, c'est une mécanisme à l'empare, les gars sont pas prêts à ça. Il n'y a pas eux qui disent, retirez-moi, je m'en moque. Vous pouvez le faire.
Comment notre Nil interfère avec s'articule autour de le PNR, s'articule autour de Natura 2000.
De Natura 2000.
Oui.
Natura 2000, vous savez, c'est un zonage.
Oui, c'est un zonage, mais est-ce qu'il y a une interférence avec le PNR
ou... Et on peut être gestionnaire. Le PNR peut être gestionnaire de site Natura 2000. Il ne peut pas en créer, enfin, il ne peut pas comme ça ni interférer dans les comités de gestion. Mais par contre, il peut postuler pour en avoir un en gestion. Ce qui se fait beaucoup dans les parcs parce que ça permet de s'embaucher.
Oui, alors ça fait le lien avec le SPAT. Ça permet peut-être Lionel de dire un mot et de faire le lien avec le SPAT. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a beaucoup de sites Natura 2000 dans ce territoire entre lesquels le SPAT est structure porteuse. Et ils préparent les contractualisations, notamment avec le monde agricole, mais aussi le monde forestier, pour les pratiques, etc. Il est prévu dans la charte du parc que le parc, s'il est créé, reprenne ses missions mises en œuvre par le SMAT. Et pourquoi je dis ça, et ça part généralement du SMAT? Le SMAT a été initiateur de la démarche PNR sur le territoire, il l'a voulu, tout en sachant que si le parc est créé, il n'y aura pas le SMAT plus le parc.
Oui.
Qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait une fusion et qu'il y ait un seul acteur. Voilà. Donc ça veut dire que si, quand vous aurez vos communes à délibérer, il y aura en quelque sorte une double délibération, une conséquence de ça, et puis communauté de communes pareil, à la fois de créer le parc et de faire en sorte que les missions du SMAT, et en quelque sorte de fermer le SMAT, et de gérer le fait que les missions du SMAT, qui sont celles d'un PNR, soient basculées au sein du PNR. Bon, on est encore en train de travailler dans le montage juridique parce que c'est toujours compliqué aussi ces sujets-là. Mais la philosophie, l'idée, c'est bien ça.
Oui. On est grand fan, mais c'est pas comme tout le monde.
Bonsoir à vous. Deux, trois petits commentaires et deux, trois petites questions si vous le voulez bien. Pour les commentaires, moi depuis 10 ans que j'habite ici, je suis content de vivre cette réunion. J'ai pratiquement l'ensemble du conseil municipal qui est là, des habitants, des élus d'aujourd'hui, des élus d'hier, des nouveaux révolutionnaires et contestataires comme l'ami Margot, des gens plus calmes qui ont été élus maire. C'est une bonne chose. Et moi. Lorsque vous détaillez pour Aléras, je pense que vous avez été pris de court un peu comme tout le monde, et que vous détaillez les points forts d'Aléras, ben ça sonne assez creux. Acteurs touristiques, restaurants, cap vacances, camping, ce ne sont pas des acteurs touristiques, mais des accueils touristiques. J'ose espérer que vous avez une vue plus large des acteurs touristiques, comme les musées, les visites à la ferme, les artistes locaux, etc. La gare ferroviaire à refaire, on avait tous fait le constat depuis belle lurette. Mais après, moi, le PNR, je ne suis pas contre. Mon fils a signé la pétition, il s'engage, c'est bien. Est-ce qu'il a compris ce qu'il faisait? Je l'espère. J'ai téléchargé le document. Son père est là pour expliquer sa faute. Et j'ai téléchargé le manifeste. J'en ai lu pas mal de pages et j'ai pas été jusqu'au bout. Souvent, vous parlez du patrimoine. C'est le leitmotiv un petit peu de ce PNR. Beaucoup sur le bâti, le culturel de temps en temps. Je ne sais pas si à un moment donné, vous parlez du culturel immatériel. Parce que là aussi, il y a beaucoup à faire, pardon, qu'on soit dans l'oralité, la musique, la langue occitane qui est quasiment perdue ici dans les gorges de l'Allier, et c'est vraiment dommage. D'ailleurs, est-ce que le PNR voudrait faire un double affichage de nos rivières, des lieux touristiques occitans français? Moi, je suis pour. Et donc, voilà, pour ce patrimoine immatériel, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Et une deuxième question. Tout à l'heure, vous disiez que ceux qui vont financer le PNR, ce sera les régions. Quand sera-t-il lorsqu'on sera avalé par Rhône-Alpes? Est-ce que vous devrez tout renégocier? Est-ce qu'on vous ficellera les cordons de la bourse? Est-ce qu'il y a un compteur reset qui va être appuyé? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Vous répondez à tout?
Pour les régions, mais après, on répondra pour ce qui est dans les régions. Ben, les régions, la fusion des régions, ben, vous savez, voilà. Aujourd'hui, c'est pas encore bouclé. En tous les cas, ce qu'on prépare, c'est tout ce qui est acté, donc la charte. Voilà, ça va être respecté. C'est l'idée qui anime les discussions qu'on a aujourd'hui dans l'idée de fusion. C'est-à-dire que on parle de nouveaux exécutifs. Nouvelle majorité même, voilà, il y a aussi la possibilité de l'individu, on ne joue pas non plus un couche de nuit, un couche de nuit, il y a le respect de la signature, voilà, tout simplement, et au-delà de ça, je dirais, dans un projet comme ça, c'est la volonté de la région Auvergne, très certainement, ça fait aucun doute, c'est aussi la volonté de la région Roussillon, et c'est aussi, on est en train de finir de convaincre aussi nos camarades de Rhône-Alpes de dire ce sont des outils de développement territoriaux dont nos territoires très loin des métropoles ne peuvent pas se passer, ne se passeront pas demain. Et la compétence des régions en première, c'est l'aménagement du territoire. Et dans ce cadre-là, il faut qu'on respecte ce qu'on a fait sur nos engagements territoriaux. Donc voilà, après, il y aura des discussions énervées pour le budget. Ça, on le sait, c'est bon, on va amener 660 millions, ils vont amener 1,7 milliard, hein, voilà, on va discuter, ça va être voilà, un peu énervé comme machin, en disant, ben, voilà, mais c'est l'idée en tous les cas de respecter le contrat, la signature, d'où l'idée aussi d'aller un peu vite, aujourd'hui on n'a pas une dynamique suffisante pour dire que les régions vont continuer à aller aussi vite. Et il faut par contre qu'on arrive à boucler un maximum de ce projet-là dans ce cadre-là. C'est, pour nous, c'est pour moi en tous les cas, c'est une nécessité.
Mon patrimoine
il arrête. Mais je ne pourrais pas tout à fait avoir ce temps, mais c'est bien.
C'est vrai que le patrimoine immatériel, il est peu mis en avant. Par rapport à d'autres sujets. Bon. Après, nous, on a pris ce qui remontait. Justement, quand vous faites fabriquer un projet de territoire avec les acteurs, ben, c'est le fruit un peu de nos forces et de nos faiblesses. Et c'est pas le résultat d'une analyse objective, totale, etc. Bon. Pour autant, donc c'est vrai. Pour autant, je vous invite à regarder la disposition 122, celle-là je l'avais plus en tête, qui s'appelle le programme d'animation auprès des habitants. C'est-à-dire que toute la philosophie aussi qui est là derrière, c'est de dire un parc, ça doit être l'occasion de multiplier les rencontres. Et quand vous dites « je suis content aujourd'hui de me retrouver dans cette configuration-là », c'est l'exemple même de ce que peut apporter aussi un PNR, et que demain, quand on existera, si on existe, il faudra être très à l'écoute, justement, d'organiser des temps de rencontres et d'échanges avec les habitants. Et que le parc, ça ne soit pas un organisme dans sa tour d'ivoire,
et puis qui voit les choses de loin et qui soit au contact. Donc on a un mot qui s'appelle le couvige, qui vient puiser dans le patrimoine immatériel, puisque vous savez que le couvige, c'est le... Hein, c'est le lieu de discussion et de passage d'informations dans le village via les dentelières, historiquement.
Les dentelières.
Hein, via les dentelières, historiquement, mais on a joué un peu avec cette idée-là, parce qu'il se disait beaucoup de choses. Hein, et d'organiser dans les villages, alors là encore, s'ils sont candidats, d'utiliser ce mot du couvige pour créer des lieux d'animation où on parle des sujets, pas que des sujets du passé, mais des sujets d'avenir. Et si vous voyez exemple de thème, hein, y a plein de choses. Et puis que c'est, on organise aussi avec les habitants des temps d'échange, des petites conférences, des débats, mais aussi de la représentation artistique. Hein, on a des troupes de théâtre super dans ce territoire qui sont prêtes, qui nous ont dit aussi, ben nous, ben, s'il faut, s'il faut créer une pièce de théâtre sur l'avenir de nos espaces, etc., ben pourquoi pas, pourquoi le parc n'en commanderait pas, on la ferait venir ici, ça donnerait lieu à un débat aussi sur entre les habitants, qu'est-ce qu'on veut dans nos villages, etc. C'est ces idées-là qui sont derrière. Alors c'est peut-être pas très bien écrit, c'est dans la disposition 122, c'est ça cette philosophie-là. Il y a la fête du parc, il y a la participation du parc aux manifestations culturelles, il y a plusieurs choses là-dedans. Mais dans ce que vous dites, moi je sens beaucoup la notion de nos couviges, quoi. C'est pas la grande culture qui arrive, où on va tout d'un coup créer un festival ex nihilo, etc.
On a surtout nos campagnes qui vieillissent, et voilà, ces gens qui vivaient là, moi je suis pas natif d'ici, mais je reste admiratif de ce qu'on me raconte d'avant. Et voilà, on le dit bien, chaque homme qui meurt, c'est une bibliothèque qui s'en va. Et il y a urgence, parce que là, si on ne collecte pas les chants, les poésies, les histoires, ce qui sera compté dans les couviges, tel homme qui gagne une réputation, tel homme qui en perd une.
Alors, justement, là, on a aussi sur la donnée fondamentale, c'est-à-dire couvige, c'est de l'animation. C'est beaucoup du partage de ces patrimoines-là, de ces savoir-faire aussi, parce que il y a des choses très intéressantes. Et puis, sur la collecte vraiment pure, il y a une disposition qui s'appelle collecter la mémoire. Elle s'appelle comme ça. Donc, collecter la mémoire, c'est... Là, je pense qu'on est dans ce que vous imaginez. Regardez là.
C'est une des parties, hein, qui, voilà. De ce que je...
Voilà. Mais il y a collecter la mémoire. Ensuite, il y a le programme d'animation auprès des habitants. Et puis aussi, je terminerai par là, il y a le programme d'animation auprès des écoles. Parce qu'il sera proposé à chaque école du parc. Donc le parc joue un rôle de fédérateur entre tous ceux qui interviennent ou potentiellement ou actuellement dans le milieu scolaire. Et par exemple, la sensibilisation à la langue occitane. L'idée, c'est plutôt d'aller dans les écoles hors temps scolaire ou dans le temps scolaire et d'avoir peut-être dans le temps périscolaire, à un moment donné, une sensibilisation aux mots de l'occitan. Pas en leur disant « on va vous apprendre à l'occitan », mais en disant « vous avez par exemple, dans ce village-là, vous avez tous les noms de nos lieux dits qui sont autour de nous, que les enfants connaissent, et qui en fait sont tous des noms occitans. » Et avoir une sensibilisation, rien qu'à partir de ces questions-là, des noms, des villages, des noms de lieux, en disant « mais ça, vous savez ce que ça veut dire derrière ?» Non, etc. Ben, en occitan, ça veut dire ça. Vous savez pourquoi, etc. Et ça, via le parc, il peut y avoir une sensibilisation, une culturation vraiment à ce que c'est que la langue occitane. Et que derrière, dans un secteur de parc, il puisse y avoir une école occitane, comme il y a un projet du côté de Paulaguet, carrément, hein, une école, comment on appelle, une calendrette, pas merci Lionel. Voilà, s'il y a un projet de calendrette, ben, le parc il contribuera à la hauteur de ses moyens, les régions, etc. Bon, mais on ne va pas se mettre à faire 30 calendrettes dans ce territoire. Mais en revanche, on peut avoir aussi, via le temps scolaire et les actions qui sont prévues en milieu scolaire, une sensibilisation à notre culture occitane.
Et donc dans ce cadre, est-ce qu'il est, comme il l'a demandé, prévu ou envisagé une double, un bilinguisme des panneaux des communes?
Bon, je regrette que ça ait été... Bon, je regrette que ça n'ait pas été demandé, mais ça n'a pas été demandé. Ça n'a pas été sorti. Alors, ça sortira peut-être pendant un charte. Le syndicat mixte peut très bien, après, redire, mais
on n'a pas été là. Pourquoi on n'a pas été là? Pourquoi on n'a pas fait cette loi? Ils prendront leur responsabilité d'aller dans la mesure 122 qui permet d'ouvrir la porte. L'idée de la charte, c'est ça, c'est de pouvoir à un moment hop, sortir et trouver la porte, tac, et dire, ben là, oui, mais là, je peux travailler là-dessus. Et bien, si c'est une nécessité à un moment, ça sera une nécessité à un moment, ça ressortira.
Depuis des fois, elle avait écrit pour l'apparition de 31 villages en Marcab.
On va pas tout oublier.
Ah, on peut proposer que au moins dans les villages remarquables, les noms existent.
Le double, hein, parce que le français est établi depuis longtemps, mais ça fait toujours plaisir.
Les potiques, les étrangers complètes.
Oui,
les étrangers, les étrangers.
C'est une très bonne question. Les races, comment on a vu ça?
C'est
la race.
C'est la race.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, parce que je ne voudrais pas abuser du temps de nos interlocuteurs qui ont de la route à faire avant de gagner leur vie.
J'ai une idée qui peut être saugrenue au départ, mais pour rattraper un peu l'affaire de village remarquable d'Aléras, c'est une mise en piste tardive. Même si elle est volontaire.
Pas du tout.
Est-ce qu'une commune peut en avoir deux? On a la particularité d'avoir Fabre de l'autre côté de l'Allier, qui faisait sur les grands parties de Sauve, de la Marcheride. On a Aléras qui est de ce côté-ci. Et pourquoi vous ne mettez pas deux appellations, une commune, deux appellations, en plein milieu des gorges de l'Allier, en plein milieu du PNR? Faites-vous plaisir,
ça fera un débat de plus pour l'emplacement de la maison du parc, qui, comme vous l'avez remarqué, n'a même pas été évoqué ce soir. On n'a pas parlé de ça, mais je voulais au moins prononcer le mot, parce que je ne voulais pas être obligé de passer à confesse après pour ne pas en avoir parlé. Pour la maison du parc, l'ancienne poste. Et comme ça, on avait deux villages remarquables et la maison du parc.
Et pour faire plaisir à tout le monde, si les loups pouvaient passer en village.
Oui, dans le loup, je respire un peu parce que personne n'a posé la question. Je me disais, mais il se passe un truc à la race qui n'a pas été si avant. C'est une question aussi.
Moi, je voulais juste revenir sur une chose qu'on a évoquée un peu tout à l'heure, c'est que le parc, quelque part, il existe aujourd'hui. Le SMAT, ça fait longtemps qu'il travaille sur notre territoire. Et pourquoi il y a ce projet aujourd'hui de parc? C'est tout simplement parce que le SMAT s'est rendu compte que financièrement, il avait peut-être fait tout ce qu'il pouvait aujourd'hui. Et que pour pouvoir passer à la supérieure, il avait besoin d'aller chercher des financements. Et comment trouver les financements? C'est la région qui nous accompagner via le parc. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut bien se mettre dans le texte, c'est-à-dire qu'on perçoit beaucoup la population, le parc, c'est le parc national, on fait une réserve, on fait une réserve. En réalité, on a travaillé depuis des années comme un parc, un petit parc, à part qu'on était, je dirais, notre petite région de l'Allier, on gérait nous-mêmes. Voilà. On était autant connus et moi.